Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en compagnie d'Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et en partenariat avec le réseau de librairies indépendantes Initiales. Vous êtes bien sur Bac FM et nous sommes en studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Alors, c'est la rentrée littéraire, tout le monde aura remarqué, et c'est un vrai régal de découvrir les nouveaux romans de ce mois de septembre. Alors, vous me direz, il y en a encore trop. Oui, plus de 500 et on ne sait pas lesquels choisir, mais vous êtes au bon endroit, c'est évident. Notre chroniqueur est là pour vous susurrer des idées de lecture qui brisent la mer gelée en nous, comme disait Kafka. Oui, c'est une émission très sérieuse ici. On ne vous conseille que des romans excellents, on ne se contente que du meilleur. Pourquoi ? Mais parce que la littérature peut changer votre vie, la nôtre aussi d'ailleurs, c'est la vérité. Si, c'est vrai. D'ailleurs, si vous avez un doute, je vous propose de lire le passionnant numéro hors série de Sciences Humaines, dont le titre est précisément la revue Sciences Humaines, dont le titre est « Comment la littérature peut changer nos vies ». Oui, c'est un petit peu audacieux, mais c'est vrai. Vous y trouverez des articles sur la littérature jeunesse, sur l'expérience de l'altérité et des interviews, notamment, alors moi j'ai bien aimé celle d'Antoine Compagnon, et aussi un petit encart sur le très regretté Tsvetan Todorov, qui nous explique ce qui met la littérature en péril. C'est très instructif. Et pour la sauvegarder et lui faire traverser le temps, l'espace et les espèces, oui, vous verrez, je n'invente rien, j'aurai le grand plaisir d'accueillir sur nos ondes en deuxième partie d'émission Jérémy Brugidoux pour son étonnant premier roman qui s'intitule « Ici la Béringie », publié aux éditions de l'Ogre. Et voilà déjà un premier livre à mettre sur votre liste de lecture. Vous verrez, c'est surprenant. Alors, notre chroniqueur est là pour vous proposer plusieurs autres lectures, choisies avec amour, de la lecture et des lecteurs, comme toujours. Mais tout de suite, je laisse donc la parole à Arthur, qui va nous parler de plusieurs dimensions, de vampires, de musique et... d'incendie.
Exactement. Justement, pour bien commencer cette rentrée littéraire qui est, comme vous l'avez dit, foisonnante, j'ai décidé de vous présenter non pas deux, mais trois romans coup de cœur de cet été.
Ah bah, il fallait ça au moins. Hein.
Alors, au programme, un voyage à travers les dimensions avec Terre au pluriel, avec un S.
Oui, on est obligé de préciser à l'oral, oui. Parce qu'à la radio, on ne voit pas le S.
De Karina Rosenfield. Un road trip vampirique avec Virgil N. Bloom de Joanne Richoux et enfin un roman poignant et fort avec Et dans nos cœurs un incendie.
Oui, en plus là on est sur des territoires très, très variés, donc je pense qu'il y en aura au moins un qui plaira à nos auditeurs.
C'est obligé. Alors du coup, Terre au pluriel, c'est ma découverte de ce début d'été. Alors Karina Rosenfeld nous livre ici un roman d'anticipation ingénieux et original. L'histoire est très cinématographique, on a l'impression de regarder un film en le lisant. Et oui. Je pense que ça permet vraiment une immersion totale dans l'histoire.
Donc une grande qualité de description, de style,
ouais, vraiment.
Très immersif.
Une histoire qui est d'ailleurs tout à fait singulière. Alors Clara, c'est une jeune fille qui vient de Terre Zéro. Depuis peu, des scientifiques ont découvert qu'il existait des dimensions parallèles à notre planète, des terres parfois similaires ou totalement différentes. Le but de Clara, c'est d'explorer ces dimensions afin de trouver le nouvel Éden pour son humanité qui est ravagée par les problèmes de notre société.
Ah oui, donc l'idée, c'est de quitter la Terre Zéro et d'en trouver une autre qui soit plus accueillante, sur laquelle on puisse ne pas refaire les mêmes erreurs.
C'est ça.
Donc en fait, dans cette histoire, il y a plein de planètes B. Quelle chance ils ont.
Elle va découvrir plein de nouvelles planètes. Plus de 500.
Mais oui, quand même. Donc c'est le multivers d'Herbert et de la science-fiction classique, mais avec uniquement des terres, en fait.
Voilà. Et dans chaque dimension, par contre, c'est assez étrange parce qu'elle croise un homme roux au regard de glace, tout le temps le même.
Il est chelou, lui. Hein.
Du coup, on se demande vraiment qui il est. Et ça permet de garder beaucoup de suspense tout au long du roman. Alors, comme vous le savez sûrement, je suis un grand fan des dystopies. Et ce roman qui propose plusieurs versions de la Terre permet d'imaginer plusieurs dérives des problèmes de notre société. Il dénonce donc à la fois la guerre, le réchauffement climatique, la dictature, l'avancée technologique ou encore les maladies créées par les humains.
Ah oui, c'est pas ce qui manque en effet.
C'est sûr.
C'est
vraiment poussé à l'extrême. Et du coup, ça permet de voir si une dérive de notre société était poussée à l'extrême, qu'est-ce qui se passerait dans notre avenir. Et c'est
ça doit être très instructif, de beaux avertissements en perspective.
Oui. Et puis, en plus, l'intrigue est vraiment géniale. Clara, c'est une personnage très attachante, dont nous découvrons la psychologie au cours des épreuves du roman. Et elle est à la fois sensible et dévouée, et elle sait prendre des risques quand il le faut. Bref, une pépite de bouquin que vous devez lire de toute urgence.
Et donc, on ne dira surtout pas comment ça se termine.
Non, on va le dire. Du coup, le second roman dont je vais vous parler est d'un style totalement différent.
Oui, on reste sur une seule terre.
Oui. Mais il possède quand même une petite part de fantastique. Parce que, alors déjà, c'est le nouveau roman de Joanne Richoux qui a l'habitude de nous prendre aux tripes avec ses histoires déjantées, atypiques et poétiques. Ces romans, on les dévore comme des bonbons qui collent aux dents. J'aime bien dire ça. Des bonbons
sucrés et acides. Tout plaisir et quand ça colle un peu, là.
Oui. C'est ça, ils sont sucrés et acides parce que ils vous font un peu pleurer, quand même. Et puis, cette autrice, c'est du génie, quoi. Si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à lire ses bouquins.
Exactement.
Et vous verrez. Bref, Virgil N. Bloom ne déroge pas à la règle. D'une étonnante singularité, il m'a conquis de la première à la dernière page. Alors, Bloom, c'est l'adolescente cassée, malmenée par la vie. Elle fait de la psycho, mais elle ferait mieux d'aller chez un psy.
Ah oui, oui, c'est passé de l'autre côté.
Oui, voilà. Faut dire qu'avec sa sœur, H24 sur son dos et des parents absents, elle n'a pas vraiment de chance.
Heureusement, il va lui arriver quelque chose d'intéressant.
Oui, justement, son grain de folie explique sûrement sa question inattendue un jour à son prof de violoncelle. Virgile, est-ce que t'es un foutu vampire? Alors,
bon,
tout
déjà,
aurait pu s'arrêter là. Hein.
Oui, il aurait pu dire non, par exemple.
Voilà. Sauf que Virgile, eh bien, c'est un foutu vampire. Et il aimerait bien partir à Brocéliande pour arrêter de ressasser sa mélancolie. Alors, ils partent, tous les deux, sur un coup de tête. Peu importe où les vents le mènent.
Où le vent les mène, oui. Et donc, en fait, finalement, il avoue sa nature vampirique.
Exactement.
Sans problème, parce qu'il sait qu'il peut lui faire confiance, peut-être.
Oui. Bon, déjà, si avec ça, je n'ai pas titillé votre curiosité, c'est que vous êtes vraiment coriace. Hein. Bon, à moi de finir de vous convaincre, du coup. Alors, j'ai tout aimé dans ce roman. Ce qui me marque le plus à chaque fois dans les bouquins de Joanne, c'est son écriture. Une écriture ambivalente, à la fois douce et violente, à l'image de ses personnages, en fait. J'adore sa poésie, sa capacité à mêler odeur, sensation, musicalité, romance. Comme je le disais, j'ai l'impression de manger un bonbon en lisant ses romans. Virgil N. Bloom, c'est un bonbon à la fraise.
Il n'y a pas un peu de menthe poivrée dedans, non?
La fraise. Vous verrez pourquoi on le dit ça. Le plus difficile, c'est de ne pas l'avaler d'un coup. Parce qu'il faut le consommer petit à petit pour savourer chaque phrase, chaque mot. Puis l'énergie dégagée par ce roman est addictive. Une vraie drogue. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vivement le prochain.
On va déjà commencer par le relire, hein, s'il est si bien. Si on peut le savourer deux fois. C'est la différence avec le bonbon. Le bonbon, on peut le manger qu'une fois.
C'est
mais
ça.
Le livre, on peut le relire plusieurs fois.
Exactement. Alors maintenant, je vais vous parler du dernier roman, Et dans nos cœurs, un incendie, qui est une lecture coup de poing qui m'a touché en plein cœur. J'ai lu ce roman en une journée. Bon, en vrai, deux heures, mais il ne faut pas le dire.
Donc, quelque chose d'excellent.
Avec un style d'écriture à la fois incisif et romantique. C'est l'écriture de Elodie Chan, elle a une plume prodigieuse, cette autrice. À chaque phrase, on devine que ces mots sont choisis avec soin, que le travail d'écriture a été laborieux, difficile, mais magnifique. Et puis, on passe par énormément d'émotions durant cette lecture. On a le cœur qui se froisse, puis se déchire, puis s'enflamme, jusqu'à s'embraser.
Oh là là.
C'est beau, hein.
Ça fait un petit peu peur. Est-ce que c'est pas trop, trop chargé en émotions?
Moi, j'ai un peu de mal à ressentir des émotions durant certaines lectures, mais là, je passais de la joie à la colère, aux larmes, en quelques secondes à peine. Et puis, pour les personnes vraiment très sensibles, il faut faire attention parce que ça parle de sujets comme le suicide et ça peut être dur quand même à lire. Bon, je parle, mais parlons d'histoire un peu, non?
Exactement.
Alors, Eden en cœur, un incendie met en scène deux personnages cassés en quête d'eux-mêmes. Isadora ne supporte plus sa mère qui change de mec comme de chemise. Elle aimerait bien foutre le feu à la terre entière, tellement elle en veut aux gens. Et Tristan, lui, il est perdu dans le méandre de ses pensées. Il en est à sa énième tentative de suicide, mais il n'a pas encore trouvé le courage de passer de l'autre côté. Puis un jour, c'est l'étincelle, quand leurs regards se croisent. Lui, il est en train de se pendre dans les toilettes, avec une corde. Elle est en train de mettre le feu à une poubelle.
C'est le meilleur moment pour croiser son regard. C'est presque du Flaubert, et leurs yeux se rencontrèrent.
Et justement, ce regard, c'est une révélation. Ils ont besoin de l'un de l'autre pour survivre, se reconstruire et s'accepter. Et peut-être qu'un jour, ils arriveront à vivre. Bref, je ne sais pas quoi dire de plus. Parce
non, mais
que...
déjà, rien que cette présentation, ces deux personnages très forts, très puissants, aux émotions déjà très, très violentes en eux. L'envie de se suicider est une émotion violente, c'est l'envie de mettre le feu à la terre entière aussi. Oui. Donc, je pense que là, déjà, on voit qu'on va faire les montagnes russes et qu'il y aura une charge émotionnelle forte. Effectivement, peut-être à lire quand on est... dans un état soi-même à peu près stable, peut-être,
c'est sûr.
Pour ne pas être trop perturbé.
Et puis, c'est sûr que si je devais donner un mot pour qualifier ce roman, ça serait puissant. Il est vraiment puissant.
Comme tu disais tout à l'heure, ça t'a touché en plein cœur.
Exactement.
C'est
bref,
très fort.
C'était une excellente rentrée littéraire pour ce mois de septembre.
Eh bien, merci beaucoup Arthur pour toutes ces suggestions. Nous voilà parés pour le mois qui vient. Mais pour les auditeurs qui n'en ont pas encore assez, ils ont raison, il faut en lire en plus.
Bah oui.
Eh bien, je les invite à aller consulter tes comptes Facebook et Instagram. Donc, c'est l'ado accro au livre, sur lesquels ils trouveront d'autres suggestions dans tous les genres. Je crois qu'on aura bien remarqué que tous les genres sont représentés. On a aussi bien de la science-fiction, de l'émotion, du drame,
de l'historique,
du fantastique. De tout. Donc, tout est envisageable. Et je le rappelle également, les romans young adultes chroniqués par Arthur sont tout à fait lisibles par des vieux adultes comme moi.
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Non, mais je dis ça parce que ça ne se voit pas à la radio, mais j'ai les cheveux blancs. Donc, eh bien, je vous propose, pour nous mettre dans l'ambiance de l'interview de Jérémy Brugidoux qui va suivre et qui est elle aussi chargée en émotions, je vous propose d'écouter le premier morceau qu'il a choisi. Attention, c'est une très belle découverte. On écoute.
Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mañana te mato. Mañana te libro, estoy adelante, ya no tengo miedo. Mañana te digo que el amor se ha ido. Y después. Después 7 años de exilio por haberte tanto, tanto mentido. Llegarás mañana para el fin del mundo. El año nuevo. Mi esqueleto baila, se atavía de nuevo de su traje de carne, su peinado de fuego. Salgo a encontrarte a medio camino. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Mañana para el fin del mundo o el año nuevo. El puerto se llena de barcos de guerra y una lluvia fina de ceniza. Encontrarte en mí. mi traje de ti. Después 7 años de exilio por haberte tanto, tanto
C'était Por el fin del mundo o el año nuevo par Lasa Decela, le premier choix de notre invité Jérémy Brugidou, auteur d'un premier roman très maîtrisé, au titre assez énigmatique, je dois dire, Ici, la Béringie. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir sur nos ondes. Vous êtes cinéaste, réalisateur des films BX46, Le Chant de la Nuit et Pouch's Moon. Vous êtes artiste-chercheur, ce qui n'est pas n'importe quoi, c'est pas courant aussi peut-être, et pratiquant de Thuy Phap, donc un art martial vietnamien. Et vous êtes l'auteur de ce premier roman paru aux éditions de L'Ogre, Ici, la Béringie, alors Béringie comme le détroit de Bering, entre l'Alaska et la Sibérie orientale. Alors c'est un roman profond et à l'écriture d'une grande poésie qui réussit à être à la fois un roman coup de poing et également à être rêveur, dans lequel en fait rien n'est incompatible avec son contraire, ce qui est quand même à souligner. Alors quand je l'ai ouvert pour la première fois, j'étais loin de me douter qu'il serait également politique et d'une imagination écologique qu'on pourrait qualifier de vibrante, hein, puisqu'on vibre entre plusieurs temporalités. Et oui, donc, chers auditeurs, aujourd'hui, nous avons de nouveau quelque chose de passionnant. Ici, la Béringie commence par deux points de vue alternés sur un même espace et à deux époques différentes. Celui d'un palynologue, donc qui est spécialiste des pollens, au moment de la guerre froide, et qui s'appelle Hoskins. Et celui d'une archéologue chargée de fouilles préventives, en quelque sorte, Jeanne, dans un futur où la calotte glaciaire a fondu, donc un futur pas très lointain. Et puis assez rapidement vient s'y adjoindre un troisième point de vue, celui de Célézé, qui se situe à une époque plus reculée, une époque préhistorique, où le détroit était encore à gué, mais sur le point d'être submergé. Donc on a ces trois points de vue et... Bon, je ne vous dis pas ce qu'il advient de la suite. Comme je vous le disais, rien n'est incompatible avec rien dans ce roman. Ça vous donne une petite idée. Mais commençons par le début, en effleurant le véritable millefeuille qu'est ce texte. Tout d'abord, Jérémy, comment vous est venue l'idée d'écrire un roman sur cet endroit qui n'existe plus ?
Eh bien, d'abord, merci pour cette présentation qui est très belle et très, je trouve, très juste. Bien, l'idée... Elle vient d'une, on va dire, d'une intuition que dans cet espace-là, il y avait une histoire à déplier et d'un, on va dire, d'une écoute radiophonique en fait, d'une émission donc de sur les épaules de Darwin de Jean-Claude Amezen en fait, qui parlait des découvertes des nouveaux mondes, et il y avait une émission sur la Béringie justement. Et sur le fait que la Béringie n'avait pas été qu'un passage, alors que dans mon imagination, ça avait toujours été le passage de Bering où les humains, en fait, ont traversé du continent eurasiatique vers l'Amérique, voilà, pour peupler les continents américains il y a fort longtemps. Et j'avais toujours imaginé ça comme un moment très rapide de passage des populations. Et là, dans cette émission, il expliquait que des découvertes récentes avaient montré que cette zone avait été en fait peuplée, habitée par des humains pendant au moins 10 000 ans. En tout cas, c'est ce qu'avaient montré les études génétiques. Et donc, il y avait eu le temps pour une véritable culture béringienne de se développer. Et donc, moi, je me suis dit, mais c'est incroyable que quelque chose qui a pu durer si longtemps, qui a été si important, et pour nous, puisse être considéré comme un passage, alors que nous, notre civilisation, qui a peut-être 2, 3, 4, 5 000 ans maximum, on la considère comme une sorte de panacée et de totalité. Et je me dis, mais en fait, voilà, évidemment, ce qu'on considère comme un tout n'est qu'un passage, et qu'on se considère comme un passage a été un tout pour d'autres. Et donc, c'était cette espèce d'aller-retour entre, voilà, les moments éphémères et les moments infinis. J'avais envie de les mélanger. Donc, c'est vrai que quand vous dites que rien n'est incompatible avec rien, j'avais envie de rendre compatible l'instant et l'infini. Et puis, comme la chanson de Lassa qu'on a entendue juste avant, la fin avec le début, quoi. Donc, qu'est-ce qu'une fin du monde quand on est capable de prendre d'autres perspectives pour imaginer que c'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, et que quand un monde finit, un autre commence. Et donc, c'était un peu ça l'envie de départ, en tout cas, ce qui a poussé l'imagination à se mettre en bande.
Alors, effectivement, on comprend mieux pourquoi les personnages ont chacun une voix différente aussi, effectivement, dans ce que vous venez de dire, puisque j'ai parlé tout à l'heure des trois personnages, mais je dois maintenant préciser que les chapitres, par exemple, qui sont consacrés à Hushkins, sont rédigés en point de vue omniscient, ceux de Jeanne à la première personne, ceux de Célésée à la deuxième. Alors, ouais. Justement, là, vous donnez déjà un premier début d'explication, mais pourquoi ce choix de trois adresses et de trois points de vue différents?
Mais en fait, ça s'est fait un peu par des sensations, disons que je me sentais comme ça par rapport à ces personnages. Je me sentais, omniscient avec ces personnages de scientifiques qui découvrent un territoire et qui ont un rapport assez détaché au monde. Et en fait, je me sentais moi-même dans ce rapport-là avec eux. Et donc, j'incarnais un peu cette forme de détachement un peu technique et scientifique au monde. Et donc, à eux, avec Jeanne, j'avais une sensation d'être elle, enfin de l'incarner, d'être dans une forme de subjectivité un peu classique. Et donc, elle est un peu le centre ou le fil rouge du roman. Et donc, elle permet d'être dans cette position rassurante du jeu auquel on est habitué, mais qui en même temps est sans cesse contrariée par des altérités qui viennent, en tout cas la rencontrer. Et Célésée, pour moi, c'était tout de suite une adresse parce qu'elle était à la fois très proche et très loin de moi, et le tu était la seule possibilité pour l'incarner, parce que je ne voyais pas comment être omniscient par rapport à elle, je ne voyais pas comment être subjectif avec elle, je ne voyais qu'une manière, c'était de la projeter, de l'imaginer et de la faire vivre avec moi dans une forme de dialogue, et qu'elle existe comme ça, quoi. Et j'aime bien cette idée de l'adresse, parce que j'avais envie que cette notion de s'adresser à et d'entrer en communication avec soit vraiment centrale aussi dans le roman, et c'est pour moi un enjeu primordial, c'est cette question d'établir une communication. Et donc là, c'était comment établir une communication avec cette période très lointaine qu'on est incapable d'imaginer, en fait, mais dont on peut s'approcher. Donc on peut faire des sortes d'approximations de ce que ça pouvait être que de vivre à ce moment-là.
Oui, et d'ailleurs, cette approximation va très loin, parce que en réalité, à travers le personnage de Célésée et l'adresse, vous vous adressez toujours à elle, tu fais ceci, tu fais cela, vous recréez toute une civilisation, toute une culture, avec ses codes, ses rites, avec ses croyances, des choses assez étonnantes. D'ailleurs, je vais laisser le lecteur découvrir, mais disons que c'est très réaliste, jusque dans les moindres détails, les plus organiques parfois, et avec les espoirs aussi, les craintes, avec l'envahissement de l'humide. C'est la manière dont les personnages perçoivent la montée des eaux. Et on ne peut s'empêcher de penser à la fois à l'Atlantide et au déluge. Et pourtant, ces éléments ne sont pas mentionnés dans cette culture, mais disons qu'ils la baignent, si je puis dire. C'est très, cette adresse vous permet de recréer une culture entière et des croyances, parce que ce roman est une véritable ode à l'interdépendance et au respect, pas seulement des êtres vivants, puisque à un moment, justement, dans cette culture, une pierre peut, dans certaines circonstances, être une personne. Donc, vous développez ce caractère holistique du réel à travers le temps, l'espace et l'espèce. Donc, c'est assez frappant. Hein. Peut-être qu'il y a une influence aussi des énergies, comme elles peuvent être manipulées dans le TUIFAP, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez, c'est une hypothèse, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez souhaité mettre en évidence cette interdépendance. Et pourquoi de cette manière, c'est-à-dire en utilisant des concepts comme la biomythologie, le transpèce, pourquoi placer l'interdépendance au cœur de votre texte?
Ben, en tout cas, je précise que ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec des anthropologues et en anthropologie, et disons que mon travail de recherche, il est à la fois en art, en philosophie, mais aussi beaucoup en anthropologie, et c'est ce qui m'intéresse le plus actuellement. Et donc mes lectures et mes travaux collaboratifs et mes rencontres et discussions avec des anthropologues ont beaucoup nourri aussi cette imagination. Et
oui, et je rappelle vraiment... que vous êtes artiste chercheur, juste je le rappelle. Oui, pardon.
Oui, voilà. Ben c'est j'ai fait une thèse en cinéma, mais en fait ça a toujours été une thèse hybride transversale qui inspiré des méthodologies de l'entrepôt, de l'ethnologie, j'ai beaucoup fait de terrain et j'ai écrit des choses là-dessus, mais tout ça pour dire que la question de l'interdépendance, elle vient aussi de cette compréhension et de cette intuition partagée par beaucoup que effectivement notre rapport au monde occidental qui est dans un rapport de sujet-objet, dans un rapport de l'individu qui va créer un lien avec un autre individu, il est en fait contingent, il a un espace et une temporalité très précise, et il n'est pas absolu, il n'est pas naturel, il n'est pas essentiel, c'est juste une autre manière d'aborder le monde, et il y en a plein d'autres. Et j'ai été beaucoup influencé par des manières d'aborder le monde. Je n'appelle pas des croyances, en fait. C'est pas, pour moi, ce ne sont pas des croyances, ce sont des savoirs ou des savoirs pratiques, des rapports au monde et des sortes de, c'est comme ce qu'on pourrait appeler nous des philosophies ou des concepts, mais c'est pas perçu comme ça dans ces collectifs-là, parce qu'il n'y a pas ces notions-là, mais c'est équivalent. Et donc, c'est des rapports au monde qui sont fondés sur l'intuition de départ que, les êtres sont d'abord en interdépendance avant d'être en individualité, et que l'interdépendance étant première, en fait, il est très difficile de s'imaginer isolé du reste. Alors que nous, on a beaucoup de mal à s'imaginer en lien avec le reste. Dans ces autres cultures, il est très difficile de s'imaginer en détachement du reste. Et donc, on est baigné dans une sorte de d'interconnexion constante, et il faut gérer cette interconnexion. Et comment on la gère, cette interconnexion? En comprenant qu'il y a d'autres sujets qui sont en interaction avec nous, et que nous, on est potentiellement l'objet de ces sujets, et qu'il faut toujours être dans une forme de négociation de cette écologie de sujets qui s'entre-influencent, qui s'entre-actionnent, etc. Et donc, ça demande une sorte de gymnastique mentale qui est pas de l'ordre de la rationalité, comme nous, on peut la comprendre en Occident, ou de la catégorisation, mais de l'ordre de la communication, de l'ordre du passage d'un corps dans un autre, de l'ordre de la compréhension que, en effet, les entités avec lesquelles j'interagis quotidiennement, que ce soit une entité vivante, organique, ou une entité minérale, comme une pierre ou quoi, elles peuvent, dans certaines circonstances, dans la mesure où moi, je décide d'avoir une telle interaction avec, avoir la position de personne. C'est-à-dire avoir une importance sociale pour moi à un moment donné. Et donc l'idée, c'est de partir de cette intuition, de se dire que il n'est peut-être pas si lointain le temps où même nous en Occident, on était capable de d'être en communication avec des êtres non humains, avec des formes d'esprit, avec des formes de fantômes, avec des plants, des animaux. Donc il me semble que ce que nous on considère aujourd'hui comme une forme de fantaisie farfelue, surnaturelle, etc., ne l'était peut-être pas tant que ça il n'y a pas si longtemps. Et j'avais envie de revenir à cette intuition, de revenir à ça, et de revenir à l'idée que la communication est possible. Il faut juste trouver le bon canal et la bonne manière de la mettre en place collectivement.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur cette question de l'imaginaire qui n'est peut-être pas si imaginaire. Et nous allons faire d'abord une première petite pause musicale avec James Blake. Life is not the same.
played the ones you know. I took you all the way. That was yesterday. I wore your favorite clothes. I said the things you'd say. That was yesterday. Left me so much.
Why'd you go?
Why'd you go?
Keep yourself back. Keep on lying. Oh, I can only be what I am. Diving, smiling. Life is not the same.
C'était James Blake, Life is not the same. Vous êtes bien de retour dans les voies du livre avec notre invité Jérémy Brugidou, qui est donc l'auteur de Ici, la Béringie. Alors Jérémy, pour quelle raison ce choix musical ?
Alors, en fait, c'est une sortie toute récente là, de James Blake. Et James Blake, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et j'ai la chance, en fait, que ma compagne soit musicienne et qu'elle m'inspire beaucoup dans tout ce qui est de l'ordre de la musique et des rencontres musicales et des concepts musicaux qui sont aussi un peu présents dans le livre. Et James Blake, c'est quelque chose qui m'a fait découvrir récemment, là, et ce morceau notamment. Et j'aime bien, en fait, la modernité, l'hybridité et les influences très mélangées qu'il y a dans ses titres et les voix multiples qui se mêlent, qui s'entremêlent, qui se répondent, les différences de rythme, l'aspect un peu saccadé. Et il y avait dans ce titre la thématique de la distance et d'une sorte d'amour impossible qui est aussi en filigrane dans le roman. Donc voilà, je trouvais que ça fonctionnait assez bien dans l'esprit du texte.
Alors, vous venez de parler d'hybridité, c'est peut-être le mot qui pourrait symboliser un petit peu ce roman. Vous avez dit tout à l'heure ce côté un petit peu le retour des influences, on a parlé d'interdépendance. Votre roman qui relève par certains aspects de l'imaginaire, des imaginaires collectifs, peut-être des archétypes aussi, et plus précisément parfois de la science-fiction, se révèle peu à peu comme une charge politique profonde qui touche à l'humanisme, à l'écologie, à l'animalisme aussi, à l'anticolonialisme, à l'anticapitalisme. Donc ici, l'interdépendance est aussi une forme de pensée qui va au-delà de la manière dont la société s'organise, mais qui peut aussi donc prendre un tour politique. Pourquoi ce choix de parler du politique à travers un texte de fiction qui est très poétique de surcroît ?
C'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse aujourd'hui produire des œuvres artistiques sans qu'elles aient attrait aux politiques, dans la mesure où on vit quand même des crises actuellement de plus en plus récurrentes de tout type. Et en fait, j'aime bien penser la question écologique sur différents plans. J'aime bien, et c'est cette pensée, elle est héritée de notamment de Félix Guattari, et donc de la question de penser l'écologie sur aussi de Gregory Bateson, une pensée l'écologie à la fois sur un plan physique matériel, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement l'environnement, la pensée sur un plan social, c'est-à-dire il y a l'écologie des relations humaines, on va dire, et il y a l'écologie mentale qui est l'écologie des relations que l'on fait dans nos imaginaires. Et qu'on est capable de penser, donc comment est-ce qu'on est capable de penser notre rapport au monde et pas seulement de l'organiser socialement ou de le concrétiser matériellement, mais comment est-ce qu'on est capable de le penser, de le rêver, de le vivre à l'intérieur. Et c'est pour moi les œuvres comme la littérature par exemple sont des occasions de rejouer ce combat politique dans l'ordre de l'imaginaire et du mental, et qui est pour moi une des clés pour une sorte d'écologie à venir, quoi. J'aime bien aussi penser à ce qu'a dit un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, qui a défini le politique comme étant ce qui partage le sensible. Et en effet, on pourrait appeler politique cette manière d'organiser le sensible entre ce qui a droit d'être vu, de ne pas être vu, d'être entendu, pas entendu. Donc tout ce qui est de l'ordre de qui a accès à la sphère de la sensibilité et tout ce qui est laissé en dehors. Et donc ça, c'est une décision politique de décider que certaines entités, certains êtres vivants vont être sur la scène et d'autres êtres vivants vont être en dehors de la scène. Et pour moi, c'est profondément politique et c'est profondément esthétique, artistique et notamment littéraire de prendre des décisions de qu'est-ce qui va qu'est-ce qui aura droit d'être en relation sensible avec nous. Et donc, un texte est d'autant plus politique qu'il est poétique puisque, en fait, la poésie, c'est ouvrir des voies sensibles à des imaginaires, à des notions, à des personnages, à des animaux, des plantes, et donc c'est leur accorder un droit de cité dans des sphères qu'on réserve habituellement aux seuls humains. Et donc en cela, c'est indissociable pour moi ce domaine qu'on peut appeler le poétique, qui est une sorte de plasticité des mots, du sensible, des images, des sons, enfin en tout cas tout ce qu'on peut susciter comme imaginaire sensoriel, et du politique qui est finalement dans nos vies quotidiennes, quelle place on accorde à ça, quelle place on accorde aux formes sensibles que produisent les autres humains, à quelle place on donne dans la ville aujourd'hui par exemple à tel insecte, à telle plante, à tel oiseau, à tel rongeur, enfin je sais pas, est-ce qu'on est capable d'être attentif à ça, de les regarder, de les percevoir et de se dire tiens, je me demande quel est son monde, quel est son quotidien, à quoi ressemblent ses nuits, à quoi ressemblent ses rêves. Donc toutes ces choses-là sont pour moi de l'ordre du politique, puisqu'aujourd'hui on est obligé de se penser en interdépendance de tous et toutes les uns avec les autres, puisqu'on a bien compris que si on s'occupe que du bien-être de l'humain et de surcroît de l'humain blanc occidental hétérosexuel, en fait, on s'en sort pas parce que c'est une forme d'autodestruction. Donc, on est obligé, finalement, pour continuer à être humain, d'accorder beaucoup plus de place au non-humain. Et donc, pour ça que politique et poétique sont, pour moi, intimement mêlés.
Vous avez parlé de penser et de rêver, donc poétiquement et politiquement, le rapport au monde, et aussi donc de le transmettre, hein, puisque l'un des fils rouges
est celui de la conservation, hein, qui court aussi tout le long du roman. La conservation, pas figée, bien évidemment. Donc, mais la conservation à la fois par les supports qui sont sans cesse mentionnés. Il y a des carnets, il y a des écrits, il y a des signes aussi, qui ne sont pas seulement des signes humains, si je puis dire. Mais aussi, donc, cette conservation à travers, bah, par exemple, le parc, hein, qui a des faux airs de Jurassic Park, d'ailleurs. Mais aussi par les contes, hein, par les imaginaires. Et on voit Célézé se dire qu'elle doit implanter des sensations, donc les sensations dont vous parliez, dans le collectif, qui n'est donc pas l'individu, pour qu'il la garde et qu'elle ne se perde pas. Alors, pourquoi est-ce que la trace, la transmission, joue-t-elle un rôle si important dans ce roman, pour vous ?
Bien, c'est en effet une question sur beaucoup de strates, question de la conservation et de la trace. En effet, il y a d'abord cette idée que ben, aujourd'hui, plus on sent que les choses nous échappent, plus on a envie de les conserver, notamment en termes de protection des espèces, extinction des espèces. Et dans un certain sens, on peut se dire que dès qu'on pense à conserver, c'est que c'est déjà perdu. Et donc, il y a un peu cette mélancolie inhérente à la protection, qui moi est une couleur que j'aime bien. Et en même temps qui me pose beaucoup de questions, et notamment la question de la conservation des espèces. C'est une question qui me taraude beaucoup, tant dans mes travaux de recherche que dans mes documentaires, que dans ce roman. C'est finalement pourquoi conserve-t-on, pour qui conserve-t-on, et qui en profite, et à quel prix est-ce qu'elle se fait. Et donc c'est toujours cette question-là qui revient, c'est pourquoi conserver, et finalement chaque personnage et chaque chapitre donc a un peu une réponse différente à cette question. Pourquoi garde-t-on des traces? Disons que Hushkins a ses propres raisons qui sont à la fois personnelles et professionnelles, qui ont attrait à faire réémerger un territoire perdu, donc c'est-à-dire chercher des traces de terre dans ce qui est aujourd'hui de la mer, donc c'est chercher des centres de propagation de fleurs à partir de ce qui est aujourd'hui recouvert par la mer de Bering. Donc c'est aller chercher des présences de ce qui est forcément absent aujourd'hui. Donc c'est un peu ça qui est toujours là, et de faire aussi revivre par là une histoire personnelle tragique. Donc il y a cette dimension-là. Chez Jeanne, il y a la dimension de pareil, il y a aussi un drame personnel qu'elle essaie de faire revivre à travers, effectivement, comme vous avez dit, les traces conservées dans les carnets, et qui sont pour moi aussi une forme de double du livre. Enfin, c'est-à-dire, à quelle entité laisse-t-on une place pour laisser sa trace dans un carnet ou dans un livre ? Donc, c'est un peu toujours cette question de, comme je disais, le partage du sensible, c'est-à-dire, est-ce que la trace, elle s'imprime d'elle-même, ou est-ce qu'il faut d'abord rendre le support suffisamment accueillant pour que la trace puisse s'y imposer, s'y imprimer, s'y déposer. Et donc, les carnets, comme le livre, comme Jeanne, sont toutes des niveaux différents de comment est-ce que je peux me transformer moi-même pour accueillir ces autres formes qui veulent laisser leur trace en moi. Et Célézé, en fait, c'est la forme la plus absolue de la porosité au monde. Et donc, c'est l'être qui se laisse traverser par toutes les formes vivantes, puisque c'est son rôle social, justement. Et c'est pas un rôle facile à incarner, puisqu'elle doit faire de cette porosité une forme de méthode. Et donc, elle est une qui collecte, donc c'est-à-dire qu'elle doit en elle-même collecter l'ensemble des sensations du monde, puisque c'est ainsi que le collectif peut comprendre ce qui se passe dans le monde autour de lui. Ce n'est que par ce que les autres formes vivantes expriment et impriment dans le corps collectif humain que les humains peuvent interpréter ce qui se passe. Et donc c'est son rôle, en fait, de choper ces traces. Et en effet, ce sera son rôle, à partir de ces traces et à partir de ce que le collectif saura en faire, de faire continuer le monde après la destruction, après la submersion des terres. Et donc c'est... effectivement, qu'est-ce qu'on choisit de qu'est-ce qu'on permet d'être protégé, qu'est-ce qu'on permet qui se continue, et quelle forme de en fait c'est pas vraiment de descendance, mais c'est quelle forme de transmission qui n'est pas qu'une transmission on va dire génétique, mais qui est une transmission affective, qui est une transmission d'une puisqu'en fait, à travers le temps, se déroule une aventure qui, en fait, plutôt que de se passer dans le temps d'une seule vie, se passe sur le temps de plusieurs vies, mais chaque vie prend le relais, sans le savoir, de cette même aventure qui a un aboutissement. Et donc, c'est quelles sont les traces nécessaires pour que cette lutte continue de vie en vie. Et donc, il y a une forme de, pour moi, de, ouais, un côté un peu mystique de dire que en nous travaillent encore des traces qui sont très 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 anciennes et qui n'appartiennent pas à notre vie actuelle, mais qui appartiennent à d'autres vies qui sont quand même en nous, qui travaillent quand même en nous et que on est capable de déchiffrer et d'actualiser dans notre vie aujourd'hui. Et ça m'intéresse, ça, de réveiller des traces archaïques et de voir ce que ça peut produire, et de toujours avec cette, pour revenir à cette idée que j'ai l'intuition que l'interdépendance et la communication entre les espèces n'est pas quelque chose de fantaisiste ou de surréaliste, mais que c'est quelque chose qu'on a eu en nous et qu'on peut encore réactualiser et réactiver, et à travers de telles traces, quoi. Et donc il faut juste les trouver la bonne piste de lecture, quoi.
Alors justement, vous parlez de ces communications, ces passages, ces transmissions interespèces, interépoques également. Alors juste un mot sur la fin de ce roman des paysans qu'on ne dévoilera pas, bien sûr, dans lequel on ne peut manquer de se retrouver, sans révéler les derniers chapitres, hein, bien sûr. L'image qui reste dans l'esprit du lecteur à la fin est d'une très grande puissance, d'autant plus qu'elle n'est que suggérée pour l'avenir. Pourquoi, alors sans révéler bien évidemment ce qui se passe, mais pourquoi avoir choisi un tel tableau final qui, en fait, est comme une sorte de feu d'artifice mêlant imaginaire et réalisme ?
Eh bien, ça n'a pas été facile, la fin. Je pense que c'est pas facile de finir un roman, peut-être. Enfin, je ne sais pas si c'est général ou pas, mais ça n'a pas été facile. Mais en tout cas, j'avais envie qu'il y ait une forme de clôture, qu'il y ait une forme de satisfaction, on va dire, de lecture, de se dire « Ah, il y a une clôture ». Et j'avais envie qu'il y ait
Une image forte qui termine ou...
Ouais, une image forte et puis un geste fort de personnages qui sont parfois très contemplatifs et très accueillants et à l'écoute et en observation, et qui là tout à coup donnent toute la dimension à leur activité, à leur action passée, donnent toute la dimension politique, révolutionnaire, de leur comportement passé. Et donc, ça cristallisait un peu tout ce qui était en germe avant. Et j'aimais bien cet effet tableau, qui, je trouve, fonctionnait bien pour clôturer un assez petit roman.
Alors, c'est un millefeuille, je veux dire millefeuille au sens où il y a beaucoup de strates, et même s'il y a peu de pages, enfin, il en fait quand même 180, un peu moins de 200 pages, ce sont des pages très denses où il se passe beaucoup de choses et où tout interagit un peu avec tout. Donc, on va terminer sur cette image que je souhaite au lecteur de découvrir en lisant votre roman. L'émission touche hélas à sa fin. Je rappelle donc le titre de votre roman « Ici la Béringie » aux éditions de L'Ogre. Alors il fait peut-être moins de 200 pages, mais on vit au moins trois vies en le lisant, et vraiment plus en fait. Donc on acquiert beaucoup d'expérience de la vie. Merci beaucoup Jérémy d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
C'était un plaisir. Donc comme d'habitude, les auditeurs peuvent nous écrire pour nous faire part de leurs remarques sur cette émission à claire@memorialiste.fr. Je remercie aussi nos chroniqueurs, et cette émission était réalisée par Laetitia Durieux et animée par Claire Garand. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques.